France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Bonjour Christophe Honoré.
Bonjour.
Pourquoi Christophe Honoré est-il ce matin l'invité de France Musique? Bien, outre le fait que c'est l'un des plus passionnants créateurs français d'aujourd'hui, c'est un metteur en scène d'opéra après Mozart, Poulenc, Debussy, Verdi, Puccini. Il se frotte à Hector Berlioz, nouvelle production des Troyens au printemps à Munich. Et puis le cinéaste, après plusieurs films habités par les chansons d'Alex Baupin, vient de sortir Guermantes, Proust, répété par les acteurs de la comédie française entre documentaire et fiction, avec beaucoup de musique aussi de Gabriel Fauré à Cat Stevens. Et puis l'homme de théâtre, lui, signe Le Ciel de Nantes, créé au tout début du mois à Lyon, au Célestin, jusqu'à ce soir à Lausanne, au Théâtre Vidi, puis en tournée dans toute la France. Ça passera à l'Odéon au printemps prochain et ça s'ouvre sur ces notes. C'est sur ces notes de piano de Nantes, de Barbara, arrangée par Guillaume de Chassy, que débute votre nouveau spectacle, Christophe Honoré. Est-ce que c'est juste un clin d'œil à Nantes, une évocation, ou bien la chanteuse, la dame brune, comme on dit, vous a-t-elle accompagné avec cette chanson où elle évoque ce père disparu qui lui revenait en plein cœur et dont le cri déchirait le silence, comme ces membres de votre famille maternelle que vous convoquez dans la pièce, le temps de cette pièce dans une salle de cinéma pour leur montrer le film que vous souhaitez faire sur eux et que vous n'êtes pas parvenu à réaliser?
Oui, il y a...
C'est long comme question.
Ouais, c'est une longue question, mais en fait, c'est assez simple comme réponse. Effectivement, si le spectacle s'appelle Le Ciel de Nantes, c'est vraiment en référence à cette chanson et à cette idée d'une évocation d'une ville qui rend le cœur chagrin. Et moi, c'est vrai que cette ville, en fait, qui était la ville de ma famille maternelle, en fait, a été à la fois une ville rêvée, puisque c'est là où j'ai fait mes premiers pas de cinéphile quand j'étais au collège, parce que j'allais comme ça en vacances chez ma grand-mère. Et puis aussi, c'est une ville marquée par les tragédies, en fait, qui se sont abattues sur cette famille. Et qui a fait que régulièrement, en fait, je retournais dans cette ville, dans une espèce comme ça de ronde des morts, de deuil successif. Et que donc, du coup, en fait, avec cette pièce, je profite du théâtre pour avoir la joie, en fait, de faire revenir ces morts et de leur donner l'espace d'un spectacle, la possibilité, en fait, de s'exprimer pleinement.
Le Ciel de Nantes, et donc les membres de cette famille maternelle nantaise dont vous racontez l'histoire, vous tirez des fils du passé, des bombardements de 1943 à Nantes jusqu'à aujourd'hui. Il y a vous, interprété par Youssouf Abiyayad, votre mère, Marido, que vous jouez, que joue votre propre frère, Julien Honoré.
Oui, tout ça commence à devenir un peu...
Oh, c'est compliqué. Et puis il y a la grand-mère, mais Kiki Odette, c'est Marlène Saldana, deux de ses fils, incarnés par Jean-Charles Cliché et Stéphane Roger, et puis l'une des filles, Claudie, avec Chiara Mastroianni, pour la première fois au théâtre, et puis un grand-père, coureur, violent et banni, là c'est Harrison Arevalo, tous convoqués, ressuscités par vous, dans une salle de cinéma, avec des souvenirs, des scènes du passé, des musiques. Ce désir là, Christophe Honoré, de dérouler ces fils de votre passé, il vient de loin?
Oui, il vient de très loin. Je pense que quand j'ai commencé justement à rêver un petit peu au cinéma, et c'était vraiment un rêve, parce que bah forcément, quand vous venez d'un milieu très populaire, moi j'habitais au fin fond de la Bretagne, vraiment au fin fond, dans une toute petite ville, ce rêve, vous avez l'impression que jamais vous allez réussir en fait à l'incarner. Et puis quand finalement, par des heureux hasards, je me suis retrouvé en fait sur des plateaux de cinéma à la place du cinéaste, très vite je me suis dit que ma mission c'était de raconter leur histoire. Donc après mon premier film, cette fois-ci le Cassard, j'avais écrit un scénario qui s'appelait Le Ciel de Nantes. Je l'avais écrit d'ailleurs avec Gilles Torrent, en fait, qui est un ami scénariste. Et puis c'était un très gros scénario, c'était une saga familiale qui partait effectivement des années 40 jusqu'aux années 2000. Et en fait, je me retrouvais avec deux films de 2h30. J'avais un peu l'impression de pouvoir faire Le Parrain 1, Le Parrain 2, vous voyez. Et évidemment, quand j'ai commencé un peu à en parler à des producteurs, on m'a dit, vous êtes gentil, mais non. Ce sera non. C'était une trop grosse entreprise. Et donc, petit à petit, film après film, à chaque fois, je me disais, bon, bah, peut-être le film suivant, je pourrais. Et puis, il faut bien que j'ai admis au bout d'un moment que ça faisait 20 ans quand même que je ne faisais pas ce film, qu'il était très important pour moi, que j'avais essayé du coup de transformer ce scénario en roman, j'avais échoué, enfin, qu'il y avait comme ça quelque chose qui résistait. Et finalement, le plateau de théâtre m'a donné la liberté. De le faire, parce que je crois que finalement, même si c'est au théâtre, ce film existe étrangement.
L'écriture, elle a pris la forme d'une psychanalyse à ciel ouvert, ou c'est pas du tout ça?
Non, alors moi, en plus, j'y connais rien à la psychanalyse. J'ai pas de défiance envers la psychanalyse, mais je pense que si ça y ressemble d'une manière sauvage et très inconsidérée.
Mais pourquoi c'était si important? Vous dites que c'était important, c'est aussi vous qui avez mis en scène Proust, le côté de Guermantes, troisième tome de la recherche. Il y a la part non pas d'aller chercher un temps perdu, mais d'analyser les restes, les traces, les sédiments de ce passé.
Ben, il y a l'idée de l'empêchement, et je pense que le fait, comme ça, de la période du Covid et tout ça aussi, a participé à ça. Qu'est-ce que où on a tous été empêchés, pour le coup. Et là, moi, c'est vrai que j'ai ce film empêché, enfin, cette idée de l'empêchement, en fait, certainement que la période, en fait, m'a amené à essayer de le dépasser. Le temps perdu, c'est plus dans l'idée que ces gens, effectivement, qui ont... qui ont été frappés par des tragédies autour des années 90. J'ai du mal, en fait, à imaginer comment ils auraient affronté aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression qu'ils appartiennent à une époque révolue, dans leur manière de vivre, dans leurs idées, dans leur...
Une salle de cinéma où on fume, par exemple.
Voilà. Et que donc, forcément, le spectacle est l'occasion de faire ressurgir aussi un temps passé. Et puis après, il y avait le défi un peu de tenter un théâtre autobiographique qui est quelque chose de particulier. Autant dans les romans et tout ça, en fait, il y a quelque chose des récits à la première personne qui se joue facilement. Au théâtre, en fait, ça me semblait être un défi et formel et en termes d'imaginaire intéressant.
Alors il y a de la fantaisie, il y a de la musique aussi dans cette pièce, Le Ciel de Nantes. On croise ces notes entendues de Barbara, Joe Dassin, Keith Jarrett, Max Richter, Lou Reed, les chants des supporters de la Beaujoire et même cette sonate de Haydn interprétée par Sviatoslav Richter. Thank you. Haydn, cette sonate en ré majeur interprétée par Sviatoslav Richter. On l'entend dans votre pièce, Christophe Honoré, Le ciel de Nantes. C'est jusqu'à ce soir à Lausanne et puis ça va tourner en décembre, en janvier, jusqu'en mars à Paris au Théâtre de l'Odéon. C'est vous qui l'avez choisi cette musique ?
Oui, en général, c'est moi qui choisis toutes les musiques.
Ah, il y a parfois des gens qui sont conseillés, qui demandent de l'aide ou des conseils bienveillants.
Ça m'arrive un peu au cinéma, notamment il y a Fred Ginka en fait, qui est quelqu'un qui négocie beaucoup les droits et qui des fois me dit tu voulais ça, mais c'est difficile à obtenir. Tiens, écoute ça et ça. Mais c'est vrai qu'en général, j'ai un rapport à la musique, que ce soit dans les films ou dans les pièces de théâtre, assez précis, je sais ce que je veux, et assez têtu et obstiné. Je peux vite être de mauvaise humeur quand on me fait entendre que c'est pas possible.
Et pourquoi vous avez choisi ? C'est un moment où on passe dans la pièce du théâtre au cinéma, il y a de la vidéo.
C'est-à-dire que ce film ne se fait pas, mais à un moment, effectivement, il y a un écran comme ça qui descend. Et c'est un moment un peu, vous voyez, comme dans La Rose pourpre du Caire, où c'est soudain, en fait, les personnages passent derrière l'écran. Pour le coup, c'est à l'inverse de La Rose pourpre du Caire, où les personnages sortaient de l'écran et rejoignaient la salle. Là, au contraire, c'est les personnages, en fait, qui passent derrière l'écran et vont retrouver, justement, le décor, on va dire, fondateur de cette histoire, qui est le séjour de ma grand-mère dans son HLM à Nantes, rue de l'Île de Saint, à côté du Grand Clos, où elle avait, où justement cette famille très très nombreuse avait vécu. Et donc en fait, je me suis amusé d'ailleurs, parce que c'était très émouvant, à recréer ce séjour d'après des photos, et les acteurs vont investir en fait ce séjour derrière l'écran.
Pourquoi la musique, elle surgit, elle s'immisce toujours chez vous, que ce soit ici au théâtre, au cinéma, parfois de façon très présente quand vous faites des comédies musicales?
C'est assez étrange parce que moi...
C'est surprenant dans la pièce, hein, parfois on s'y attend pas.
Ouais, dans la pièce aussi, c'est assez étrange. Parce que je me souviens quand même que quand j'ai fait mon premier film, j'étais dans une espèce de dogme où je me disais qu'il fallait pas utiliser de musique, que les cinéastes qui utilisaient de la musique, c'était des mauvais cinéastes. En gros, que c'était des... Vous voyez, il y a toujours comme ça, cette espèce de truc, quand vous êtes cinéphile, on vous dit, ah oui, quand il y a de la musique, c'est comme des béquilles, c'est que la mise en scène est ratée, etc. Et donc, j'utilisais... Et malgré tout, dans mon premier film, avec Alex Baupin, déjà, je me suis aperçu que tout le monde me parlait d'une séquence, et notamment qui était une séquence, en fait, d'une chanson d'Alex Baupin, et que, derrière l'idéologie un peu de mise en scène que j'avais... finalement, que ma mise en scène s'accordait assez bien à l'idée comme ça de bulle musicale, parce que c'est souvent ça en fait dans mes films, c'est-à-dire que la musique soudain permet d'échapper au récit un petit peu, de moments de suspension. Et donc j'ai continué à travailler dans cette idée-là, et puis après, c'est vrai, en ayant fait des films musicaux, en ayant travaillé à l'opéra, etc. Maintenant, pour moi, c'est aussi beaucoup des questions de rythme général de l'œuvre. Et la musique, en fait, me permet parfois de chapitrer, mais parfois d'accélérer, parfois de ralentir, en fait, la construction du récit. Et du coup, c'est un outil essentiel, avec lequel je travaille énormément.
Et la musique d'Alex Baupin, elle arrive aussi dans Le ciel de Nantes, au ciel. Un extrait de la bande originale des chansons d'amour, ici chanté par Louis Garrel. Alors, dans le ciel de Nantes, Christophe Honoré, c'est votre frère, Julien Honoré, qui la chante. Et donc, il joue le rôle de votre mère. Hein. C'est un peu compliqué quand on n'a pas vu la pièce. Vous dévoilez une famille, on l'a dit, qui va vivre des tragédies. Une famille en proie à la violence, à l'alcoolisme aussi, avec la dépression, le suicide. Est-ce que cette pièce, elle renvoie aussi, à vous, mais aux spectateurs qui la voient, les questions de l'héritage, de la transmission, voire de l'atavisme?
Oui, en tout cas, moi, c'est certain, et je pense que mes cousins et cousines, en fait, on était tous à un moment... Il y avait une espèce comme ça de peur, que
s'enfuir.
Je crois qu'on était convaincu d'être empoisonné, en fait. C'est-à-dire que comme il y avait comme ça une succession de drames, c'était une famille nombreuse de 10 enfants. Ma grand-mère a eu donc 10 enfants et elle a vécu la mort de 8 de ses enfants, en fait. Je pense qu'à un moment, en tout cas moi, j'avais très fort ce sentiment de malédiction. Donc vous avez raison en parlant d'atavisme, etc. Il y avait quelque chose comme si on pouvait pas échapper à ce destin-là et que ce destin-là était forgé quand même par la violence et la cruauté de mon grand-père, en fait, du mari de ma grand-mère maternelle, en fait, qui avait été voilà, qui est une espèce comme ça d'abominable personnage. Et puis après, bah, vous vous affranchissez aussi de cette histoire. Mais c'est vrai que moi, je faisais partie, je vois bien par rapport à notamment mon frère aîné ou d'autres cousins, en fait, cette histoire me passionnait. C'est-à-dire que quand j'avais 12 ans, 13 ans, je préférais être avec eux. Mon père les appelait un peu les fous de Nantes, parce que c'est vrai que c'était une famille un peu de fous. Mais moi, j'adorais en fait être avec eux parce que soudain, je les trouvais tellement plus vivants, tellement plus romanesques. Et je passais mon temps déjà à archiver, en fait, à collecter toutes les histoires de famille auprès de ma grand-mère, auprès de mes oncles, auprès de mes tantes. Et donc, cette mission, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'une mission de raconter, de faire ce récit familial. J'ai vraiment, à un moment, j'ai eu l'impression que c'était ma charge. Et une charge qui était aussi un prestige.
On parle beaucoup ces temps-ci de ce qu'on appelle les transfuges de classe, quitter son milieu, sa famille pour une autre vie. Vous ressenti, Christophe Honoré, une forme de trahison devenant artiste par rapport à cette famille?
Oui, bah, par la force des choses... C'est une trahison. Après, le côté transfuge de classe, ça m'emmerde. Enfin, ça m'ennuie un peu. Je sais pas. Je trouve que c'est des espèces de médailles qu'on s'auto-décerne assez facilement. Vous voyez, genre, on vient d'un milieu populaire et donc forcément, je sais pas. Il y a quelque chose là-dedans qui. Enfin, moi, j'ai surtout de la peine pour eux et pour la vie qu'ils ont eue. Vous voyez ce que je veux dire? Et en tout cas. À aucun moment j'ai ressenti de la honte. Enfin, moi je me suis senti honteux parfois de pas être à leur hauteur, de pas réussir justement à faire ce film sur eux, etc. Mais en revanche, j'ai jamais ressenti une honte envers eux. Au contraire, je les trouvais beaucoup plus forts que moi, en fait, ces gens. Je les trouvais beaucoup plus passionnants, complexes, et j'admirais vraiment leur persévérance dans la vie, alors que la vie était vraiment très éprouvante et très difficile pour eux.
Artiste, vous l'êtes aussi à l'opéra, si je compte bien. C'est votre 6e mise en scène à Munich en mai, Les Troyens de Berlioz, chez Serge Dorny, qui vous a proposé il y a une dizaine d'années, quand il était à Lyon, votre première mise en scène d'opéra. C'est lui qui a choisi Les Troyens ou c'est vous, encore une fois, qui avez choisi?
Non, là, c'est moi qui ai choisi parce qu'il me parlait d'œuvres, en fait, et je lui disais, mais... un metteur en scène français à Munich, pourquoi j'irais faire un Mozart ou, vous voyez, ou
je me disais vraiment, Richard Strauss.
Ouais, voilà, ça n'avait pas beaucoup de sens. Et je dis, bah, quitte à venir en tant que français, il faut que je fasse une œuvre française. Et je lui dis, mais par contre, voilà, j'avais quelques œuvres françaises que je voulais vraiment pas faire. Et à un moment, j'ai mis sur la table Les Troyens. Mais c'était il y a 4 ans déjà, en fait, qu'on a commencé à parler des Troyens. Il m'a dit, ah oui, très bonne idée. Et je l'avais pas assez étudié au moment où j'avais mis sur la table Les Troyens.
Et là, aujourd'hui,
bah là, je l'ai bien étudié là depuis. C'est waouh, je sais pas comment dire ça. C'est Je pense que ça va être la mise en scène la plus complexe des mises en scène que j'ai pu envisager à l'opéra. Bah, c'est une œuvre très compliquée. Elle est très compliquée dans sa dans son amplitude déjà, dans sa dramaturgie, parce que acte 1, elle est vraiment scindée en deux, en fait, entre un acte 1, acte 2, qui se passe à Troyes et ensuite à Carthage. Et d'ailleurs, souvent, j'ai vu du coup beaucoup de mises en scène depuis. Il y a une espèce comme ça de d'élan en fait dans cette œuvre au départ, et puis à un moment quand on arrive à Carthage, en fait c'est très 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 difficile de redémarrer. En fait c'est vraiment une œuvre éprouvante à regarder. Après elle est très très belle, elle est très belle parce qu'elle s'appuie vraiment sur un duo de femmes passionnant, mais en mise en scène je pense que c'est un défi.
Vous regrettez pas?
Non, je le regrette pas. Si, je le regrette d'ailleurs. Mais je suis content parce que de toute façon, les mises en scène d'opéra pour les metteurs en scène, c'est toujours des défis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand ça résiste, en fait, c'est ça qui est intéressant parce que du coup, vous êtes obligé d'avoir des idées. Et malgré tout, à l'opéra, autant les idées au cinéma, en littérature, je sais pas comment dire ça, je m'en méfie un peu. Autant à l'opéra, la mise en scène, en fait, c'est impératif d'avoir des idées.
Les idées de Christophe Honoré sur les Troyens de Berlioz, ce sera en mai à Munich avec un casting impressionnant. Diana Damrao, Anita Rajvelishvili et en Cassandre, Marie-Nicole Lemieux. Un extrait des Troyens de Berlioz avec Marie-Nicole Lemieux et Stéphane Degout. Tous les deux seront à Munich dans votre mise en scène. Christophe Honoré, c'était l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg dirigé par John Nelson. Depuis 10 ans que vous faites de l'opéra, qu'est-ce que vous avez appris en fréquentant ce monde, ce milieu?
Ben, j'ai appris plein de choses, que c'est un milieu que je connais absolument pas. Et pour le coup, j'ai pas eu de... Vous voyez, l'opéra, il était absolument absent de mon adolescence. Et c'est vraiment quelque chose qui est venu après coup, certainement parce que j'avais fait un peu des films musicaux et que je travaillais à des mises en scène de théâtre. Je pense que c'est ça qui a donné à un moment l'idée à Serge Dandin de proposer. Et donc, c'est toujours passionnant quand vous arrivez et que vous êtes à la place de celui qui est censé un peu quand même... dirigez, puisque le metteur en scène, bon, on n'est pas le seul, hein, il y a le chef, mais malgré tout, vous dirigez. Et quand vous vous sentez vous-même assez incompétent, en fait. Et moi, j'aime bien cette situation-là. Incompétent ou innocent, ou en tout cas, voilà, ça vous permet de faire des choses et d'envisager les mises en scène. Donc, c'est une grande kermesse, l'opéra. C'est très particulier. C'est à la fois des moyens vraiment importants, un nombre de gens qui travaillent pour vous conséquent, et puis en même temps, voilà, ça ressemble vraiment à une kermesse de fin d'année à l'école. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que ça va pas tenir debout. C'est fait de briques et de brocs, et ça a toujours une espèce d'aspect quand même, quand vous êtes dans la salle en tant que spectateur, assez solennel, alors qu'à l'arrière ça tient avec plein de choses, des petits bouts de ficelle de partout, quoi.
Vous pouvez moins tout contrôler.
Bah, je contrôle. Non, oui, à l'opéra vous contrôlez assez peu de choses. Bah déjà parce que vous avez affaire à des chanteurs. Où la question quand même de leur valeur sur le plateau ne dépend pas de vous. C'est-à-dire que le fait que les gens les apprécient ou les apprécient pas, c'est rarement quand même pour leur talent d'acteur. Même si on peut apprécier en fait que un chanteur, une chanteuse à un moment incarne un personnage, malgré tout ça se passe toujours du côté de la voix. Donc même si vous en tant que metteur en scène, vous essayez de les aider, de les accompagner le plus possible, au bout du compte, vous savez très très bien que c'est pas que votre aide, elle est quand même assez secondaire. Et puis après, je sais pas comment dire ça, c'est-à-dire c'est une responsabilité aussi très partagée avec le chef, et donc vous n'êtes pas vous êtes pas que le capitaine du bateau quand même en tant que metteur en scène. Mais par contre, vous avez intérêt à ce que le bateau soit bien construit.
On parle de Berlioz et on entend Sheila, parce que grâce à Christophe Honoré sur France Musique, on peut se quitter avec Sheila qui clôt le ciel de Nantes.
Grâce. Jusqu'à...
grâce à vous, pardon. J'ai dit à cause?
Non, grâce, mais oui. Ça me fait rire de dire grâce à moi. Vous permettez de mettre Sheila quand
ce
vous
soir
voulez.
À Lausanne, je plaisantais au Théâtre Vidi. Ce sera à La Rochelle, à Mulhouse, à Reims en décembre, à Nantes, bien sûr, en janvier. Douai, Poitiers, Annecy, Chambéry, Albi, Marseille et enfin à Paris, à l'Odéon du 5 mars au 3 avril. Le ciel de Nantes n'a jamais rendu votre cœur chagrin, Christophe Honoré?
En tout cas, en ce moment, comme ça se passe plutôt très bien, non, c'est plutôt un cœur joyeux.
He's a ladies man, always greet with a kiss on the hand, protects the soul at the ready to answer a call.
Avec parcimonie, Sheila. Demain, notre invitée sera une jeune chanteuse, Jeannine Debic. Elle fait ses débuts à l'Opéra de Paris dans Alcina de Robert Carson, mise en scène par Robert Carson, après-demain. À la technique, ce matin, il y avait Swad Boukarsa, Maïwenn Le Géant. Merci à Flora Sterdadel, Pierre Matignon, Marjolaine Portier-Kaltenbach et Yacine Bouza.
À réécouter sur francemusique.fr.